Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue en Congolais avec Alain Rung à la présentation.
Bonsoir, province du Nord Kivu. Au moins 12 000 personnes en provenance du Rwanda sont arrivées clandestinement dans les territoires de Masisi et Rutshuru durant les 4 derniers mois. Comment expliquer ce mouvement massif des populations entre le Rwanda et la RDC? Trois invités participent à cette émission, deux sont dans ce studio. Professeur Jean-Pierre Mbwebwa, analyste politique et enseignant à l'Université catholique au Congo. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Francesca Fontanini, porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR en RDC. Bonsoir madame Francesca.
Bonsoir.
Rigobert Mupondo, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés CNR, structure gouvernementale. Lui, il est en ligne. Bonsoir Rigobert. Voilà, il va nous rejoindre dans quelques instants. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Des mouvements de population en provenance du Rwanda s'observent de plus en plus dans les territoires de Masisi et Rutshuru depuis près de 4 mois maintenant. Ces personnes traversent clandestinement la frontière à partir de Kibumba à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma sur l'axe Rutshuru. Qu'est-ce qui est à la base de ces mouvements? Qui sont réellement ces personnes? Et que dit la Commission nationale pour les réfugiés? Pour essayer de comprendre cette situation, nous rejoignons Sifa Maguru, l'une de nos correspondantes à Goma, au Nord Kivu. Bonsoir Sifa Maguru, juste d'abord nous rappeler les faits. Il y a combien de temps que ces personnes en provenance du Rwanda traversent la frontière pour s'installer en RDC et combien sont-ils?
Bonsoir Alain Irung, il faut dire que ces mouvements ont été constatés il y a de cela 4 mois selon la Commission nationale des réfugiés et même selon les services de sécurité. Elles traversent la frontière congolo-rwandaise à partir de Kibumba, une localité située à 25 km au nord de Goma dans les territoires de Nyiragongo. Certains d'entre eux passent par Tongo, un village de Rutshuru, pour atteindre Kichanga, tandis que d'autres se dirigent vers les villages précités à bord de bus en passant par Goma. Les coordonnateurs de la CNR indiquent que 80% de ces populations déclarent provenir des camps de réfugiés de Byumba et Kibuye au Rwanda. Elles arrivent par groupe, certaines accompagnées de leur bétail et vont s'installer dans les villages tels que Kiroliwe, Kichanga, Mushaki, Birambwe, dans la ferme de Kisuma pour ne citer que ceci dans les territoires des Masisi. Mais au sujet des chiffres, il est difficile de confirmer le nombre réel de ces retournés. La Commission nationale pour les réfugiés au Nord Kivu avait parlé des 12 000 familles qui se réclament être réfugiés congolais, mais d'autres sources parlent des 12 000 personnes. Donc il est pratiquement impossible de confirmer combien ils sont aujourd'hui, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a un mouvement important.
Quelle est la situation aujourd'hui? Ces mouvements continuent-ils jusqu'en ce moment?
Effectivement, selon plusieurs témoignages recueillis, ces arrivées se poursuivent encore aujourd'hui. D'après plusieurs sources, ces mouvements ont lieu surtout les mardis et jeudis, jour du marché de Kibumba. Ils arrivent au Congo en passant par Kibumba.
Le Haut Commissariat pour les réfugiés reconnaît-il qu'il y a des réfugiés congolais qui sont rentrés au pays il y a 4 mois?
L'HCR ne veut pas parler des retours des réfugiés et préfère utiliser les termes mouvement des populations entre Rwanda et la RDC. Selon son porte-parole en RDC, Francesca Fontanini, ces retournés ne peuvent pas, pour l'instant en tout cas, être considérés comme des réfugiés congolais. Premièrement, parce qu'ils n'ont aucun document attestant qu'ils sont réellement des réfugiés. Deuxièmement, parce qu'ils ne figurent pas dans la base de données du HCR. Et troisièmement, parce que le bureau du HCR à Kigali n'ont signalé aucun mouvement des réfugiés qui quittent les camps pour retourner au Congo. Bref, selon Madame Francesca, le nombre de réfugiés dans les camps du Rwanda n'a pas diminué.
Dernière question à Sifa Maguru. Vous avez rencontré la semaine dernière à Kichanga, dans le Masisi, certains retournés. Qu'ont-ils dit? Pourquoi sont-ils rentrés au pays sans passer par le HCR et pourquoi ils n'ont aucune pièce d'identité?
Beaucoup disent avoir quitté les camps en raison de mauvaises conditions de vie. Ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment nourris et n'ont pas accès aux soins médicaux adéquats. Ils reconnaissent toutefois quitter clandestinement les camps de réfugiés sans en informer les responsables concernés. Et au sujet des identités, certains retournés disent avoir vendu ou perdu leurs documents administratifs pendant leur séjour au Rwanda. Voilà un peu la situation.
Merci Sifa et bonne soirée à Goma.
Merci à vous aussi.
Maître Rigobert Mupondo, bonsoir. Maître Rigobert, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Bonsoir.
Voilà, nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer en début d'émission. Vous êtes secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, SNR, une structure gouvernementale. Comment expliquez-vous ce mouvement massif des populations entre le Rwanda et la RDC?
Vous comprenez, le Rwanda et la RDC sont des pays voisins où habitent en fait les populations de même ethnie, de même provenance, d'origine et tout ça. C'est pourquoi peut-être on peut expliquer ces mouvements des populations. Et nous pouvons aussi comprendre que dans le temps où il y avait la liberté de circulation, les gens se promenaient d'un pays à l'autre sans trop de formalités. C'est peut-être ça qui explique ce mouvement.
Mais Maître Rigobert Mufondo, qui sont ces personnes? Avez-vous pu les identifier clairement?
Ben écoutez, mes bureaux au niveau de les bureaux de la CNR au niveau de Goma ont eu des contacts avec ces personnes. Mais il est établi que ces personnes ne peuvent pas être considérées comme réfugiées. Dans le sens où les réfugiés, quand ils sont dans un pays, ils sont enregistrés comme tels et ils ont le statut de réfugié. Et quand ils rentrent, normalement, ils rentrent dans le cadre d'un accord juridique que nous appelons l'accord tripartite que nous signons entre le pays d'asile, le pays de provenance et le HR. Ça, c'est dans le cadre normal. Mais il arrive aussi que les réfugiés rentrent d'une manière spontanée. Mais ces gens qui rentrent d'une manière spontanée doivent au moins démontrer la preuve qu'ils ont été réfugiés dans le pays qui les a accueillis. Puisqu'il y a une administration qui s'occupe des réfugiés, qui protège ces réfugiés. Quand bien même ils rentreraient d'une manière clandestine, ils les annoncent, ou s'ils les annoncent, enfin pas clandestines, d'une manière spontanée, je veux dire, ils l'annoncent, même s'ils n'ont pas annoncé, et la comptabilité du pays qui les a accueillis les déduisent de sa banque de données. Et en fait, quand nous nous rencontrons dans le cadre de nos réunions tripartites, on nous fait état des personnes qui sont parties.
Maître Mufondo, avant de donner la parole à Francesca Santanini, qu'est-ce qu'ils doivent détenir comme document pour prouver qu'ils sont effectivement réfugiés?
Mais les réfugiés, quand ils sont identifiés, en fait, les documents habituels qu'ils ont, c'est la carte des nations, puisqu'ils sont assistés par le HR principalement, avec les autres agences qui leur donnent la nourriture et tout ça. Ils ont des cartes des rations. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont de la ration, ils ont ça. Et ça, c'est un des documents qui prouve que ces personnes ont été réfugiées dans le camp. Alors, quand ils quittent le camp, dans le cadre des accords que nous signons, on leur donne le formulaire de retour volontaire, le VRF. Ça, c'est un document qui prouve que ces gens ont été réfugiés et qu'ils se sont signalés pour rentrer. On leur donne ces documents-là. Donc, j'ai dit ici, dans le cadre des spontanés, s'ils rentrent, mais au moins, ils prouvent qu'ils ont été réfugiés en montrant la carte de ration que les HR leur donnent.
Merci, Maître Mufondo. Nous vous gardons tout au long de cette émission. Francesca Santanini, vous êtes porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés. Vous venez de suivre Maître Rigobert Mufondo, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés. Pour lui, ces personnes ne sont pas des réfugiés. Qui sont-elles exactement?
Oui, tout à fait, on est d'accord sur la position de Maître Mufondo, parce que très peu de ces groupes qui sont rentrés, ces groupes de mouvements de population, ont été capables de montrer leur carte de ration, tout document trouvant leur présence passée dans un camp de réfugiés. Et en plus, comme quand même votre correspondant Norki vous l'a mentionné, entre les raisons que ces personnes ont invoquées comme motifs de retour, c'était les problèmes de réduction ou discontinuité de l'assistance alimentaire ou de l'assistance à l'éducation au niveau secondaire dans les camps. Mais cette information, on l'a vérifiée avec notre collègue d'HR Rwanda et toute discontinuité de l'assistance a été niée par la CR au Rwanda. Et en plus, tout à fait, les LIS et les HR au Nord Kivu, ils sont toujours en contact avec notre bureau au Rwanda. Et donc, on peut vérifier les personnes, si les personnes se trouvaient dans les camps des réfugiés au Rwanda, et on parle des trois camps, ou pas. Et on doit dire qu'entre les personnes, entre la liste des personnes qu'on a reçues, très peu, peut-être une vingtaine, il était dans notre base de données. Donc, c'est vraiment nécessaire connaître un peu la liste, un peu les profilages de cette personne pour voir si son personne bat le mandat de Yuan et HR ou pas. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas vraiment les considérer comme réfugiés et bat notre mandat.
On les appellerait comment alors?
Come l'ha detto quand même le maître Mitondo, on les appelle comme mouvement de population pour la sang ou de même des passages transfrontalières et des personnes sans documentation. C'est ça un peu ce qu'on discute quand même au niveau de la communauté humanitaire.
Mais et si ces personnes, par exemple, au Rwanda étaient recueillies dans des familles, est-ce qu'ils auraient nécessairement des documents?
Et non, seulement des documents, des HR, c'est seulement pour les personnes qui sont logées, qui habitent dans les camps des réfugiés à Rwanda. C'est ça que notre base de données, il se base seulement sur la population dans les camps.
Professeur Jean-Pierre Mbouébois, vous êtes analyste politique et enseignant à l'Université catholique au Congo. Je vous accueille avec cette réaction de Mboussa Rougovou de Boutembo Nord Kivu qui dit « Pourquoi nos autorités attendent toujours qu'il soit trop tard pour intervenir face aux grands problèmes qui cadrent avec la protection de l'intégrité territoriale comme celui-là? Pourquoi ne pas avoir identifié ces personnes avant qu'ils ne traversent la frontière? Car 12 000 personnes, c'est quand même énorme pour dire qu'ils sont entrés clandestinement. »
Oui, c'est vrai. Ça signifie aussi que le pays a vraiment besoin d'assurer la responsabilité des citoyens. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait un tel nombre de personnes qui arrivent dans le pays et on n'est pas capable d'identifier ces gens-là. Alors, comme dans notre pays, l'identification reste un problème, alors il est très, très, très difficile pour nous de nous assurer de l'identité de ces personnes. Donc voilà un peu la difficulté. Maintenant, si ce sont effectivement des Congolais, la RDC ne peut pas aussi empêcher aux Congolais qui rentrent dans leur pays de s'installer là-bas. Mais ce qui est curieux, c'est le nombre par rapport à la période. Donc, sur 4 mois, s'il y a 12 000 personnes qui arrivent comme ça du jour au lendemain, ça pose quand même un problème d'accueil. Et puis, c'est curieux pourquoi subitement toutes ces personnes traversent nos frontières pour rentrer en RDC, même s'ils sont congolais. Et apparemment, les motifs qui sont allégués ne semblent pas être vérifiés parce que les HCR. D'après ces informations, au Rwanda, on n'a pas interrompu l'assistance dont les réfugiés qui sont dans les camps bénéficieraient. Donc, à ce moment-là, ça pose quand même un problème et ça tracasse un peu certains compatriotes. Et je comprends cela, pourquoi les gens s'inquiètent.
Mais en plus, il est difficile de vérifier leur identité parce qu'ils n'en ont pas.
Voilà, c'est ça surtout, le fait que... Nous avons des populations qui n'ont pas de papiers, qui n'ont jamais été enregistrées quelque part, et ils sont congolais. Alors c'est la situation en fait de presque tous les Congolais, à part l'enrôlement avec la carte d'électeur. Je crois que les Congolais n'avaient pas un document comme ça qui permettait d'identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Et dans ces cas précis, il est difficile de refuser à ces gens-là s'ils se réclament des nationalités congolaises, il est difficile de prouver le contraire.
Et j'ajoute, professeur Mbouébois, deux réactions qui nous viennent du Katanga, Jean de Lubumbashi. Comment expliquer qu'en RDC, on peut y entrer et y sortir comme dans une maison inhabitée? Où sont les FARDC, la police, la NER et la DGM, Kakuli de Kalemi? Pourquoi la RDC doit-elle constituer la porte d'entrée par laquelle n'importe qui peut accéder n'importe comment?
Mais vous savez aussi que les populations frontalières, c'est difficile de dresser les murs et empêcher qu'elles puissent se déplacer dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est irréaliste. Ce n'est pas la police qui va empêcher aux Congolais de venir, s'ils sont Congolais, de revenir au Congo, ni l'armée non plus. Donc, en termes de liberté aussi, qui sont garanties par notre propre constitution, les Congolais qui rentrent dans son pays, il est toujours le bienvenu. Donc, la RDC réserve en principe l'accueil à ses ressortissants, à ses fils. Maître Rigobert Mukondo, cela fait quand même 4 mois que ce mouvement a commencé, mais pourquoi on en parle seulement maintenant?
Écoutez, j'ai nettement l'impression que c'est des gens se rendent compte maintenant du fait du nombre et de l'importance de ces mouvements. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle que maintenant. C'est vrai, moi, d'emblée, je vous dis, ma compétence se limite à la gestion des réfugiés et non à la gestion des migrants. Nous pouvons considérer peut-être les gens qui reviennent, bon, à tort, peut-être ils se disent réfugiés, puisqu'ils savent que de l'autre côté, il y a beaucoup de réfugiés, ça peut être que des migrants, des gens qui ont habité peut-être dans des familles et qui se retrouvent plus et qui rentrent. Mais ça, c'est le travail de l'administration de l'immigration, donc de la DGR. Et en fait, ces gens qui nous voulons bien croire que s'ils sont Congolais, mais un Congolais ne peut pas hésiter d'aller au service d'immigration, se faire enregistrer, identifier et rentrer chez lui. Donc, c'est un peu l'aspect clandestin du mouvement qui inquiète. Je crois que c'est ça qui a fait que les gens se sont réveillés.
Francesca Santanini, certaines sources parlent de 12 000 familles, d'autres parlent de 12 000 personnes. Finalement, ces gens sont combien?
Et ça, je pense que cette question-là, il faut le demander aux autorités et, comme il a dit Maître Mimpondo, quand même, et surtout à la DGEM qui sont présentes autour de la frontière. Et donc, il faut faire vraiment attention à les données qu'on donne, parce que ça fait une grande différence parler de 12 000 personnes ou de 12 000 familles, parce que 12 000 familles, on parle déjà de 50 000 personnes. Et donc, ça quand même peut créer pour certaines populations certaines paniques. Donc, avant de donner ces chiffres-là, il faut toujours faire un exercice de vérification. Et en plus, il faut tenir en compte que beaucoup, on parle quand même que beaucoup de gens s'étaient déjà rentrés en vague, déjà entre 2000 et 2007, surtout dans la zone de Kichanga. Et donc, parce que par rapport à notre exercice de profilage qu'on a commencé cette année depuis le mois de février, on a bien constaté qu'en certains sites, il y avait des réfugiés congolais qui étaient rentrés en 2007 et maintenant se trouvaient dans une situation de déplacés internes. Donc, il faut quand même tenir en compte de cet élément de retour qui déjà s'était manifesté dans le passé.
Donc, si je comprends, à ce jour, personne ne maîtrise effectivement le nombre exact, l'effectif de ces personnes qui sont rentrées.
Non, nous on attend des résultats un peu plus concrets de la part des autorités. Après, bien sûr, on collabore avec eux, et surtout en ce qui concerne ce que nous appelons protection monitoring. Et après, une fois qu'on connaît qui sont cette population, alors on peut donner des chiffres et on peut dire entre ces groupes qui est réfugié, qui n'est pas réfugié.
Voilà, peut-être que Maître Mukondo pourrait nous donner la réponse. Maître Mukondo, combien sont ces personnes?
Écoutez, je crois que Francesca vous dit une réalité. La comptabilisation dans notre pays est un peu difficile. Les services de la DGM n'ont pas tous les outils qu'ils font pour pouvoir arriver à identifier, à enregistrer toutes les personnes qui rentrent. Et en plus, il n'y a pas que ça, il y a aussi que la porosité de notre frontière permet aux gens de rentrer n'importe comment. Il nous est difficile aujourd'hui de donner le chiffre exact des personnes qui sont rentrées. Et ça appartiendra à l'administration, puisque ces gens, là où ils vont, Il y a des chefs de groupement, des chefs de secteur, des chefs de chefferie, et il y a des territoires. Donc les gens qui reviennent, tout mouvement de population, en principe, doit faire l'objet d'une identification, d'un enregistrement. Je pense qu'il faut peut-être nous remettre à l'administration pour connaître réellement les chiffres de ceux qui sont revenus.
Professeur Mboibwa, sans remettre à l'administration, mais la question a été posée à l'administration et la réponse c'est que l'administration, sans réfère au gouvernement, dit qu'elle n'est pas très concernée par cette question.
Oui, je pense quand même que c'est ce que Maître dit est la réalité. Il faut que les services de la DGM, n'est-ce pas, puissent donner quelques éléments par rapport aux personnes qui ont traversé les frontières. Mais étant donné la porosité de nos frontières, il est possible que ces personnes sont entrées, puisqu'on dit qu'elles sont entrées de manière clandestine, il est possible que la DGM n'ait pas remarqué, ne soit pas en mesure de faire une comptabilité fiable. Néanmoins, là où les personnes sont allées s'installer, il y a les autorités locales qui ont la possibilité de procéder au recensement pour connaître exactement combien de gens sont venus s'installer. On est dans un pays, il y a quand même un ordre, il y a les gens à la base. Les personnes qui vivent dans toutes ces contrées-là se connaissent bien, que ce soit au niveau des secteurs, que ce soit au niveau des chefferies, ils se connaissent très bien. Donc s'il y a de nouvelles têtes qui arrivent, il est possible d'identifier et de connaître des nombres. Surtout s'il y a des soupçons que ces personnes-là ne sont pas originaires de ces coins-là, parce que c'est un peu tout cela qui profile dans les différents commentaires, dans les craintes. Alors, à ce moment-là, les personnes qui arrivent dans ces conditions-là, je ne vois pas comment est-ce qu'elles peuvent facilement s'installer dans un territoire sans que les populations locales ne soient en mesure de les identifier. À moins que ce soit effectivement les autochtones qui avaient fui un moment et qui reviennent. Alors, à ce moment-là, elles connaissent bien le coin, le milieu, ils peuvent facilement s'installer et s'intégrer dans les populations. Mais dans tous les cas, il est important que le gouvernement, à partir du gouvernement central, puisse donner des instructions claires pour qu'au niveau local, on puisse faire la comptabilité de ces personnes, qu'on puisse s'intéresser un peu à leur installation. On ne peut pas être là. Vous voyez, ces genres de commentaires, ça rend un peu ridicule la gestion des personnes. Il y a les ministères de l'Intérieur, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial. On ne peut pas simplement expliquer qu'on ne sait pas compter, ces personnes sont passées sans que la DGM les remarque. Tout ça, c'est ridicule. On doit assumer ses responsabilités. Et il y a quand même de l'autorité dans ces pays. Il y a des autorités qui ont été élues, qui ont des comptes à rendre, qui doivent faire leur travail et faire rapport à la population pour tranquilliser les gens, rassurer les gens sur la qualité, sur l'identité des personnes qui sont entrées dans cette partie du pays.
Au sujet de ces mouvements des populations du Rwanda vers la RDC, le gouvernement congolais dit être bien informé. C'est ce qu'affirme Lambert Mende, son porte-parole et ministre de l'Information à Radio Okapi Goma. Lambert Mende qualifie toutefois cette situation d'anormale dans la mesure où les préparatifs pour le rapatriement des réfugiés congolais vont bon train, avec notamment la tenue dans les prochaines semaines d'une réunion tripartite Rwanda, Congo et Haut Commissariat pour les réfugiés. Lambert Mende rassure tout de même que ces personnes en provenance du Rwanda se feront identifier par les services spécialisés. Le porte-parole du gouvernement central est joint au téléphone par Gisèle Cage.
Nous lançons un appel à tous les Congolais qui sont au Rwanda d'attendre que tous les préparatifs soient achevés pour qu'ils rentrent en bon ordre pour leur propre sécurité. Les deux pays sont en contact et ont une même lecture de cette situation. Personne ne viendra au Congo et dire qu'il ne veut pas se faire identifier. On a des services du gouvernement central, on a des services du gouvernement provincial, on a la direction générale des migrations, ils vont faire leur travail. Ceux qui opposent de la résistance le feront à leur corps défendant, l'État doit se faire respecter. Ils seront identifiés. Nous identifierons les Congolais, ils resteront au Congo, c'est leur droit. Les étrangers seront rapatriés, c'est le droit du Congo.
Nous avons sans succès tenté de joindre le gouvernement rwandais pour avoir sa réaction à cet effet. Francesca Fontanini, à quel niveau sont aujourd'hui les préparatifs de la tripartite Rwanda-RDC-HCR?
Oui, dans ces jours, tout à fait, on a eu des réunions avec les maîtres de la CNR, de la Commission nationale pour les réfugiés, juste pour faire le point des différents accords tripartites, inclus les Rwanda. Et bon, on est en train, on est dans les préparatifs pour avoir ces rencontres avec le gouvernement du Rwanda et de la République du Congo. Et donc, on pense de l'avoir dans les mois de décembre au début de janvier pour justement organiser une opération de rapatriement en toute dignité, en toute sécurité, comme le langage des HR. Et donc, c'est important que, comme l'a dit M. Lambert Mende, d'assurer une rentrée en bon ordre pour la sécurité même des réfugiés, parce que quand on rentre, il doit rentrer dans des conditions dignes. Et c'est-à-dire qu'il y a en place dans les zones de retour une présence d'autorités d'État, qu'il y a en place certaines infrastructures basiques comme à partir de la santé, à partir de l'éducation. Donc, on respecte des critères de protection, des critères humanitaires. Donc, une fois que les deux parties ils s'accordent que ces critères ils sont les pièces attendu, alors on commence à préparer logistiquement, du point de vue technique, cette opération. Et il faut quand même rappeler que cette année, dans le mois de mai, en avril, on a déjà eu une rencontre avec le gouvernement de Rwanda du Congo à Goma. C'est parti d'un groupe technique de travail, mais on cherche justement d'avoir bientôt cette réunion tripartite pour commencer l'année prochaine l'opération de rapatriement organisée à partir de Rwanda, où on a encore 52 000 réfugiés congolais dans les camps.
Et il y a combien de réfugiés rwandais au Congo?
Il y a presque 22 000.
Maître Rigobert Mopondo, si je comprends, à ce stade, ces personnes ne dépendent plus de votre service.
Non, les personnes qui reviennent de cette manière-là ne relèvent pas de mon service. Puisqu'en fait, comme a dit Fontanini, c'est dans le cadre d'un rapatriement organisé, c'est-à-dire après des accords tripartites, il y a beaucoup de dispositions qui doivent être mises en place pour pouvoir recevoir les gens qui reviennent. Parce qu'un rapatriement, ce n'est pas seulement un problème de logistique, c'est pas prendre les gens, aller les jeter. Un rapatriement, ça se prépare, il faut créer vraiment des infrastructures d'accueil pour que les gens viennent et qu'ils soient, comme a dit Francesca, dans la dignité. La sécurité, ça, le pays assure la sécurité, mais il faut une dignité des gens qui reviennent. Il faut les enfants étudier dans des camps de réfugiés au Rwanda. Quand ils reviennent, il faut que les enfants trouvent une école. Ils avaient des soins de santé. Quand ils reviennent, il faut qu'ils soient soignés. Donc tout ça demande des préparatifs. Et recevoir les gens qui reviennent, comme ceux qui reviennent, s'ils sont des Congolais qui rentrent, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Ils vont s'intégrer et d'une manière assez hasardeuse, dans la mesure où peut-être il n'y a rien. Il y a la population qui y vit aussi. Je n'en disconviens pas. Ils vont vivre dans les mêmes conditions que les autres. Or, s'ils avaient attendu un rapatriement organisé, même ceux qui sont pas sortis, ceux qui sont sur place, et que ce soit les déplacés ou les autochtones qui sont restés sur place, pouvaient bénéficier aussi de certains services qui seraient mis en place pour l'accueil des réfugiés qui reviennent. Donc, j'ai conclu pour dire que ces personnes qui rentrent n'entrent pas dans le cadre du mandat de la Commission nationale pour réfugiés, qui, lui, contribue à la réalisation des accords tripartites pour faire entrer les gens dans la dignité et la sécurité.
Professeur Jean-Pierre Mbouébois, deux autres réactions. Simon Toutou dit en Belgique, il dit « Comment comprendre que près de 12 000 personnes puissent traverser la frontière pour s'installer en RDC sans qu'aucun service compétent ne soit informé ? Cela ne témoigne-t-il pas le manque de maîtrise de la situation administrative, politique et sécuritaire de notre pays ? Et comment pouvons-nous espérer la sécurité et la paix au Congo si nos frontières restent toujours poreuses ? » Alain-Joseph Lumanja de Kinshasa, la question des réfugiés doit être abordée avec responsabilité et clairvoyance. C'est à la fois une question humanitaire, sécuritaire et géostratégique.
Oui, là, je crois que les intervenants ont raison et ce qu'ils déclarent est tout à fait compréhensible tant que du côté de l'Est, notre pays a eu beaucoup de problèmes, des guerres là-bas. Donc les Congolais sont devenus sensibles quand on parle de déplacement des personnes à l'Est. Mais il faut quand même aussi remarquer que ces personnes sont arrivées, n'est-ce pas, sur une période, comme on dit là, de 4 mois. Donc c'est un mouvement qu'on commence à remarquer maintenant. Donc ce ne sont pas des gens qui sont venus comme ça en masse en une fois. Donc c'est peut-être là aussi où on peut trouver l'excuse hein, par rapport aux personnes qui devaient faire leur travail pour identifier ces personnes dès leur arrivée. Mais maintenant qu'on constate qu'il y a ces mouvements-là, je pense que le ministère de l'Intérieur fera son travail parce que ça rentre dans ses attributions de devoir identifier les gens et le ministère de l'Intérieur dispose des services pour pouvoir le faire. Et ils doivent le faire parce que, vous voyez, maintenant ça devient l'objet d'inquiétude un peu. Mais d'autre part, bon, quand on a des populations transfrontalières, il est difficile aussi de juger, n'est-ce pas, les gouvernements simplement parce qu'il y a des gens qui ont traversé. En général, il y a des gens qui traversent, ils vont faire les marchés de l'autre côté de la frontière, ils vont acheter ceci, ils vont vendre cela, donc. Parfois, il y en a qui étudient de l'autre côté ou qui étudient en RDC.
Mais du moins, ils sont bien identifiés.
Oui, ça signifie que les services d'immigration peuvent identifier ces personnes-là. Et parfois, les habituels, les gens qui ont l'habitude de passer, ils ne font même pas de formalités particulières pour ça.
Dialogue entre Congolais de ce soir se penche sur la province du Nord Kivu où au moins 12 000 personnes en provenance du Rwanda sont arrivées clandestinement dans les territoires de Masisi et Rutshuru durant les 4 derniers mois. Comment expliquer ce mouvement massif des populations entre le Rwanda et la RDC? 3 invités participent à cet échange. Rigobert Mupondo, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés CNR, structure gouvernementale. Francesca Fontanini, porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR en RDC. Professeur Jean-Pierre Mbouébois, analyste politique et enseignant à l'Université catholique au Congo. Vous souhaitez participer à cette émission. Voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez nous écrire à dec@radiocapi.net. Maître Rigobert Mupondo, au stade actuel, qui prend en charge ces personnes?
Ben, au stade actuel, malheureusement, c'est la communauté, malheureusement, c'est la population locale qui va les prendre en charge, comme ils ont échappé au contrôle d'État, ou comme a dit le professeur, c'est l'État qui doit se prendre en charge, puisque ce sont des populations qui ne peuvent pas échapper au contrôle de l'État. Effectivement, les ministères de l'Intérieur disposent des services compétents pour pouvoir faire le travail, et je suis sûr que le ministre va prendre des dispositions avec le gouvernorat de la province pour pouvoir procéder à l'identification de ces personnes et déterminer exactement quelle est leur nationalité. La charge, ça revient à la communauté de prendre en charge, ça revient à l'État de prendre en charge, et voilà, si ce sont nos concitoyens, donc c'est l'obligation de notre État de s'assumer. Mais malheureusement, bon, le retour n'est pas fait dans les règles. du jeu, mais je pense que l'État doit pouvoir s'assumer.
Francesca Fontanini, c'est l'État qui doit s'assumer, il n'y a aucune structure. Qui doit prendre en charge ces personnes?
Avant de prendre en charge ces personnes, il faut identifier qui sont ces personnes.
Mais sans qu'ils ne sont pas identifiés.
Mais comme il a dit, les maîtres, quand même, c'est le ministère de l'Intérieur à travers ses services du gouvernement central, du gouvernement provincial ou la DGM même, qui vont faire tout ce travail d'identification de toutes les personnes qui entrent sur les sols congolaises. Et donc, une fois qu'on a terminé cet exercice d'identification, on peut comprendre mieux de ces groupes qui viennent de devenir des Rwandais en RDC. À partir de cela, on peut voir qui a la responsabilité.
Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas qui nourrit ces personnes, ils sont logés où, qu'est-ce qui se passe. C'est un très confus, hein?
Comme il a dit le maître, quand même, le gouvernement est en train de faire, de l'identifier, est en train de faire ce processus. Ce n'est pas un processus qui s'apprend un jour. Peut-être ça va prendre un petit peu de temps, mais il faut bien, avant de mettre en place le dispositif, il faut même connaître les bénéficiaires. Ça, c'est pas seulement dans ces cas, mais dans tous les cas, même dans les cas de passe interne, dans les cas de patrimoine, quand même, il faut toujours savoir les bénéficiaires et après, on peut lancer une assistance. Mais avant tout ça, il faut connaître qui on en face.
Professeur Mwebwa, décidément, la situation est un peu confuse. Il y a Umirambe Upokiri de Bunia en Ituri qui dit « Le gouvernement congolais doit bien gérer cette situation pour éviter les conflits ethniques, les conflits de terre en termes d'espace. »
C'est effectivement ça le problème, parce que quand les personnes à ces nombres-là arrivent sur un territoire, ici chez nous dans notre pays, il n'y a pas de dispositions particulières, il n'y a pas de services sociaux pour pouvoir prendre en charge des personnes qui arrivent, surtout au niveau local, où les problèmes se posent, c'est au niveau des territoires, au niveau des secteurs, au niveau des chefferies. À ce niveau-là, ils n'ont pas de possibilité d'intervenir. C'est pour cela, comme le phénomène fait maintenant du bruit, au niveau national, je suis sûr qu'au niveau provincial aussi, ils vont s'y pencher, ils vont essayer de débloquer des moyens pour assurer un minimum d'assistance à ces personnes-là. Autrement, ils vont vraiment détruire la nature, ils vont perturber le fonctionnement des structures locales et bientôt il y aura des conflits parce que les populations locales ne vont pas être en mesure d'absorber, n'est-ce pas, de telles vagues sur une petite période. Parce qu'on a déjà eu de tels mouvements en 1994, lorsqu'on a eu la guerre au Rwanda. Beaucoup de Rwandais sont venus ici, et aujourd'hui nous avons le phénomène FDLR, à cause de ces mouvements-là. Alors nous n'allons pas encore assister à des mouvements de personnes qui viennent, qui risquent de provoquer, n'est-ce pas, des déséquilibres dans l'environnement, sans qu'il soit contrôlé. C'est pourquoi il est important qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, aussi bien le ministère de l'Intérieur au niveau du pouvoir central qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, pouvoir provincial, ils puissent s'intéresser à ces personnes, les identifier, les encourager peut-être à s'installer sur le territoire de manière à ne pas déstabiliser un seul coin, parce qu'il est, tel que je comprends, c'est dans des territoires qu'il y a une forte concentration de ces personnes qui arrivent. Alors, ces personnes vont déstabiliser le fonctionnement de ces territoires-là, de ces secteurs. Donc, il est urgent de pouvoir faire une intervention. Dans notre pays, nous savons qu'il n'y a pas une assistance qui est assurée aux personnes qui arrivent comme ça sur les sols, surtout si ce sont des Congolais, à moins que un budget spécial soit débloqué pour pouvoir intervenir. C'est ce qui est souhaitable de faire en ce moment.
Je vais vous demander une brève réaction, professeur Mbeboa. Il est Ragenonga de Bounia en province orientale. Mouvement massif ici, expulsion là-bas et bruit de bottes. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC. Mais vous êtes Radio Okapi, vous êtes généralement mieux informé et vous donnez l'information. Comme il est sur Radio Okapi, je crois qu'il va suivre l'évolution de ces mouvements. Et vous, en tant qu'analyste politique? Ben, moi, en tant qu'analyste politique, j'ai plus de questions que je me pose que des réponses. Vous voyez, ce sont des questions, nous nous posons beaucoup de questions, nous émettons les souhaits, nous formulons, n'est-ce pas, de vœux, mais tout cela n'est pas sûr, hein. Donc, il est important quand même que quelque part, ceux qui ont les pouvoirs assument leurs responsabilités. Maître Rigobert Mopondo, il y a Blaise Osongo de Kananga au Kasai Occidental qui dit « Le gouvernement congolais devra, devant l'afflux de ces réfugiés, activer les mécanismes diplomatiques, surtout à travers la CPGL. »
Écoutez, la CPGL effectivement était un cadre merveilleux qui régissait nos relations avec le Rwanda, le Burundi, et nous trouvions beaucoup de solutions. Et j'avais parlé au début de mouvement des populations, parce que la liberté de circulation était garantie par la CPGL. Je crois que la réactivation de la CPGL va contribuer à apporter beaucoup, beaucoup de solutions dans la contrée. Et bon, pour le moment, je pense qu'on a déjà rétabli les relations diplomatiques en nommant des ambassadeurs au niveau du Rwanda et au niveau des Kinshasa pour le Rwanda. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés sur le plan bilatéral et aussi sur le plan de la CPGL où nous pouvons, dans le cadre sous-régional, nous pencher sur des problèmes et trouver des réponses. Parce que le drame, en fait, au niveau de l'Est, c'est ces problèmes des populations. Et nous en sortirons pas tant que nous n'aurons pas trouvé des réponses qui conviennent pour la gestion de la masse de la population qui tourne autour de grands lacs. Et je crois qu'il faut trouver, bien sûr, une structure supranationale qui peut aider à trouver des solutions et à trouver des compromis pour pouvoir et ensuite mener la sensibilisation auprès de nos populations pour qu'ils comprennent aussi les phénomènes. Et dans ces phénomènes, il ne faut pas qu'il y ait la compréhension demande aussi qu'il n'y ait pas de brutalité. Il faut que les gens puissent intégrer ça comme pouvoir, comme la recherche d'une solution et non pas d'une imposition où on ne peut pas imposer aux populations du Nord Kivu par exemple un phénomène des populations qui ne sont pas originaires de là.
Maître Mopondo, il nous reste presque 1:30 pour terminer cette émission. Je vais vous demander en guise de conclusion que faut-il finalement envisager comme solution pour ces personnes qui sont revenues du Rwanda?
Mais d'abord en fait que ce mouvement s'arrête. Parce que on ne peut pas gérer et trouver des solutions tant qu'il y a des mouvements des populations. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de cela. Qu'on arrête le mouvement et que le problème soit posé au niveau des gouvernements pour qu'on trouve la solution. Si ce sont des populations congolaises, ça ne posera aucun problème, puisqu'ils savent d'où ils sont sortis et ceux qui les ont vus partir les connaissent. Donc ça peut se régler. Donc là, j'ai conclu en ce sens-là. Il faut que ça s'arrête et que les politiques se mettent ensemble pour pouvoir régler ce problème.
Merci à Francesca Fontanini. Votre solution à vous?
Oui, je pense que, comme on a dit ce soir, c'est important de renforcer la surveillance des frontières et en plus pour attendre la signature des accords tripartites avec les deux pays. Et c'est important aussi informer et sensibiliser les réfugiés congolais qui se trouvent dans les camps au Rwanda sur la situation dans les zones de retour. Mais c'est quand même important de préparer ici les conditions de retour en RDC pour ceux qui ils vont rentrer dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que du côté d'HR, on a déjà pris des différentes mesures avec notre partenariat UN Habitat et des autres ONG afin de travailler au règlement des conflits fonciers, par exemple, et sensibiliser les populations à la cohabitation pacifique et tenir quand même des réunions avec les chefs coutumiers, toujours dans ces cadres des informations. Ça, peut-être, c'est quelques éléments pour quelques recommandations.
Professeur Mbouéboa, en 15 secondes, votre conclusion.
Non, il faut que le Congolais compte sur le gouvernement. Les autorités politiques doivent assumer leurs responsabilités et rassurer la population qu'elle contrôle la situation. C'est très important.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et merci à nos invités d'avoir accepté de participer à cette émission. À demain et bonne suite de programme sur Radio Capi. Thank you.